Conrad, pour moi, c'est ça. Non pas les idées, mais la puissance des images.
Michel Lebris.
Cette sensation que vous avez dans Au cœur des ténèbres, la sensation que ces images, comme ça, elles sortent, elles jaillissent d'une sorte de nuit intérieure, oppressante.
Ça peut pas faire de mal.
Une sorte de lac noir dont on a l'impression qu'il est sans fond et qu'il s'impose. Pour moi, si je veux définir le génie propre de Conrad, avant de donner à penser, c'est vraiment de donner à voir.
Lecture proposée par Guillaume Gallienne.
Ça peut pas faire de mal.
Il se trouve que quand j'étais gamin, j'avais une vraie passion pour les cartes géographiques. Je passais des heures à contempler l'Amérique du Sud, ou l'Afrique, ou l'Australie, et à m'absorber dans toutes les splendeurs de l'exploration. À l'époque, il y avait beaucoup d'espaces vierges sur les planches des atlas, et lorsque j'en voyais un qui me paraissait spécialement séduisant sur une carte, mais tous ont cet air-là, je posais le doigt dessus et disais « Quand je serai grand, j'irai là ». Le pôle Nord était l'un de ces endroits, je m'en souviens. D'autres lieux étaient éparpillés du côté de l'équateur et à toutes sortes de latitudes sur toute la surface des deux hémisphères. Je suis allé dans certains d'entre eux, mais il en restait un, le plus grand, le plus vierge, si je puis dire, après lequel je soupirais toujours. À ce moment-là, il est vrai, ce n'était plus un espace vierge. Depuis mon enfance, il s'était rempli de fleuves et de rivières, de lacs, de noms. Il y avait là un fleuve en particulier, un fleuve énorme que l'on voyait sur la carte, tel un immense serpent délogé, la tête dans la mer, le corps au repos, s'incurvant longuement par une vaste contrée, la queue perdue dans les profondeurs du continent. Ce lieu avait cessé d'être un espace vierge, au délicieux mystère, une tache blanche sur laquelle un petit garçon pouvait bâtir de lumineux rêves de gloire. C'était devenu un lieu de ténèbres. Ce rêve d'enfant est celui que Joseph Conrad prête à son héros, Charles Marlowe, dans son œuvre la plus célèbre, Au cœur des ténèbres. Je vous invite ce soir à une exploration aux limites de l'indicible avec ce grand roman de la littérature anglaise, paru en feuilleton dans un magazine en 1899, avant d'être édité en 1902. Marlowe est un capitaine de la marine marchande qui remonte le fleuve Congo à la recherche d'un mystérieux chasseur d'ivoire. Au récit de ses aventures se mêle l'observation critique du système colonial mis en place dans la région. À l'époque, le Congo appartient au roi des Belges. Celui-ci y établit un réseau de comptoirs commerciaux et entreprend un vaste chantier de construction de chemins de fer, s'assurant ainsi l'exploitation des ressources de tout le pays. C'est un contexte que Joseph Conrad connaît bien. Il sillonne en effet les mers pendant une vingtaine d'années avant de se consacrer à l'écriture. Et embarque lui-même en 1890 comme capitaine d'un navire à vapeur sur le Congo pour le compte d'une compagnie commerciale. Quelques années après son retour, en à peine 3 semaines, il écrit « Au cœur des ténèbres », donnant corps fiévreusement à une expérience qui le hante. S'il fut pour sa part rapatrié très rapidement pour maladie, Marlowe, son double de fiction, remontera le fleuve jusqu'à son ultime point de navigation. Conrad offre un tableau sans concession des colons européens qui, dans toute l'indécence de leur hypocrisie, se targuent de civiliser des populations dites sauvages et primitives, mais se révèlent bien plus sauvages encore. De manière plus complexe, il explore le point de rupture vers la folie que, semble-t-il dire, nous avons tous en nous dans un tel environnement, car le système colonial ne peut mener qu'à la sauvagerie. Entrons dans ce récit diaboliquement vertigineux que Marlowe lui-même adresse à des compagnons de bord des années plus tard sur un navire à l'arrêt dans l'estuaire de la Tamise. Ouvrons avec Marlowe la porte des ténèbres. C'est dans la capitale belge que tout commence. Au seuil du roman, notre héros concrétise son rêve d'enfance. Il est embauché en tant que capitaine d'un bateau pour remonter le fleuve Congo. Marlowe a traversé la Manche. Le voici dans la ville sépulcrale, au décor annonciateur de mauvaise fortune. Il va signer son contrat et surtout se prêter à quelques rites de passage. Dans un silence de mort, Marlowe arrive à la porte de la société commerciale qui l'embauche, nommée la Compagnie. Je montai un escalier bien balayé, mais nu, aride comme un désert, et ouvris la première porte qui se présenta. Deux femmes, l'une grosse et l'autre mince, étaient assises sur ces chaises paillées à tricoter de la laine noire. La mince se leva et marcha droit sur moi, toujours tricotant et les yeux baissés. Et à l'instant précis où je songeais à m'écarter de son chemin, comme on ferait devant une somnambule, elle s'arrêta net et leva les yeux. Elle avait une robe aussi coquette qu'un fourreau de parapluie. Elle tourna les talons sans un mot et je la suivis jusque dans une antichambre. Une tête de secrétaire aux cheveux blancs apparut et un index décharné me fit signer certains documents. Je crois bien que je m'engageais, entre autres choses, à ne divulguer aucun secret commercial. Soyez tranquille, je n'en ferai rien. Je commençais à me sentir un peu mal à l'aise. Il y avait quelque chose de menaçant dans l'atmosphère. Tout se passait comme si j'avais été admis dans quelque conspiration, je ne sais pas, quelque chose d'un peu douteux. Les deux femmes tricotaient fébrilement leur laine noire. La vieille restait assise sur sa chaise. Ses pantoufles de tissu étaient calées sur une chaufferette et dans son giron reposait un chat. Elle me lança un coup d'œil par-dessus ses verres. La placidité rapide et indifférente de ce regard me laissa songeur. Un sentiment d'étrangeté me gagna. Il y eut ensuite la visite au médecin. Le vieux docteur me tâta le pouls, tout en songeant manifestement à autre chose. « Bon, bon pour là-bas, » marmonna-t-il. Puis il me demanda avec une certaine ardeur si je lui permettais de prendre les mesures de ma tête. Plutôt surpris, je dis oui. Là-dessus, il produisit une espèce de compas à calibrer et prit les dimensions derrière, devant, de tous côtés, qu'il releva avec soin. C'était un petit bonhomme barbu, au paletot élimé, chaussé de pantoufles, que je jugeais être un inoffensif imbécile. « Dans l'intérêt de la science, je demande toujours la permission de mesurer le crâne de ceux qui vont là-bas, » dit-il. « Et quand ils reviennent aussi ?» demandai-je. « Oh, je ne les revois jamais, » rétorqua-t-il. « Et puis, vous savez, c'est au-dedans que les changements se produisent. » Il sourit comme à une discrète plaisanterie. « Alors vous allez là-bas, épatant et intéressant avec ça. » Il me jeta un regard pénétrant, ajouta quelque chose à ses notes. « Jamais de cas de folie dans votre famille, » s'enquit-il d'un ton neutre. La moutarde me monta au nez. « Cette question-là, c'est aussi dans l'intérêt de la science ?»« Il serait intéressant pour la science, » dit-il, sans paraître remarquer mon irritation, « d'observer les transformations mentales des individus sur place. Mais vous êtes aliéniste, » l'interrompis-je. « Tout médecin devrait l'être tant soit peu. Sous les tropiques, il faut avant toute chose rester calme. » Il souligna son avertissement d'un index solennel. « du calme. Adieu. » Malgré ces sombres présages, l'appel du large est pressant pour notre jeune officier de la marine marchande. Écoutons le récit de la première traversée de Marlowe sur l'océan Atlantique le long des côtes africaines. Regarder une côte tandis qu'elle défile le long du navire, c'est comme penser à une énigme. Elle est là, devant vous, souriante, revêche, accueillante, grandiose, médiocre, insipide ou sauvage, et toujours muette, avec l'air de chuchoter « Viens donc me voir. » Celle-là n'avait presque pas de traits formés, comme si elle était encore inachevée, et offrait un aspect de monotonie sinistre. La lisière d'une jungle colossale, d'un vert si sombre qu'il en était quasiment noir, frangée d'une barre écumante, courait tout droit, comme tirée à la règle, à perte de vue, le long d'une mer bleue, dont l'éclat dur était tamisé par une brume rase. Le soleil était féroce, la terre semblait luire et ruisseler de vapeur. Les jours passaient, la côte offrait le même aspect, comme si nous n'avions pas bougé. Mais nous laissions derrière nous diverses localités, des comptoirs, avec des noms comme Grand Bassam, Petit Popo, des noms qui semblaient faire partie de quelques farces sordides représentées devant une toile de fond sinistre. L'oisiveté du passager, ma solitude parmi tous ces hommes avec qui je n'avais rien de commun, la mer huileuse et molle, la ténébreuse uniformité de la côte, tout cela paraissait me maintenir à distance de la vérité des choses, dans les raies d'une hallucination funèbre et absurde. Ce n'est qu'au bout de plus de 30 jours que je découvris l'embouchure du grand fleuve. L'immobilité altière de la forêt originelle s'étendait alors devant mes yeux. L'herbe drue, la vase, la muraille de végétaux tressés qui s'élevait plus haut que l'enceinte d'un temple, le grand fleuve. Tout cela était grand, patient, muet. Une falaise rocheuse parut, des monceaux de déblais près de la berge, des maisons sur une colline, d'autres au toit de tôle parmi des terrains vagues bouleversés par des excavations ou accrochés à la pente. Le bruit incessant des rapides en amont planait au-dessus de cette scène de dévastation habitée. Des hommes en foule, noirs et nus pour la plupart, allaient et venaient comme des fourmis. Un soleil aveuglant noyait par moments tout cela dans une brusque recrudescence de lumière insoutenable. Je me demandais si le visage impassible de cette immensité qui nous regardait exprimait une invite ou une menace. Mon attention se porta sur trois édifices de bois d'allure militaire sur la pente rocheuse. C'était le poste de la compagnie. En même temps que Marlow, découvrons le premier visage des ténèbres, celle de la colonisation. Nous sommes à la fin des années 1890. La colonisation de l'Afrique par les puissances européennes est totale. Quasiment en temps réel, Conrad dénonce à travers les yeux de son héros la sauvagerie instituée derrière le masque de la philanthropie. Si l'interdiction de l'esclavage a été actée par la conférence de Berlin qui a établi les règles du partage de la division du continent africain, le Congo belge reste tristement célèbre pour les mauvais traitements infligés aux populations indigènes. L'extrait suivant est à cet égard saisissant. Retrouvons notre héros lors de sa première escale. Sous un soleil de plomb, Marlow fait ses premiers pas dans un paysage dévasté. Il longe le chantier de construction de chemin de fer à la recherche d'un peu d'ombre quand un son vient rompre le silence. Un léger tintement de métal derrière moi me fit tourner la tête. Six noirs avançaient à la file, montant péniblement le sentier. Ils marchaient lentement, gardant en équilibre sur la tête de petits couffins emplis de terre, et le tintement rythmait leurs pas. Un chiffon noir leur saignait les reins, et ses pans, noués derrière, se balançaient comme des queues de chien. Je voyais chacune de leurs côtes, les articulations de leurs membres saillaient comme les nœuds d'un cordage. Chacun avait au cou un collier de fer, et ils étaient tous reliés par une chaîne dont les ballons oscillaient entre eux et cliquetaient en mesure. L'imagination la plus dévergondée ne pouvait appeler ennemis ces hommes-ci. On les appelait criminels, et la loi outragée s'abattait sur eux. Leurs maigres poitrines haletaient tout ensemble, les narines violemment dilatées frémissaient, les yeux restaient fixés devant eux sur la pente. Ils passèrent à 6 pouces de moi, sans un regard, avec cette totale indifférence, semblable à la mort, qui est celle des sauvages quand ils sont malheureux. Je contournais une énorme excavation que l'on avait creusée à flanc de coteau dans un dessin qu'il me parut impossible de deviner. Ce n'était pas une carrière, en tout cas, ni une sablière. C'était simplement un trou. Un tir de mine retentit sur la falaise, suivi d'un léger frisson du sol sous mes pieds. L'ouvrage se poursuivait. Un chemin de fer. L'ouvrage. Et c'était ici le lieu où quelques-uns de ses auxiliaires s'étaient retirés pour mourir. Ils mouraient à petit feu. C'était très clair. Ce n'était point des ennemis. Ce n'était point des criminels. Ce n'était plus rien de ce monde-ci désormais. Plus rien que des ombres noires de maladie et d'inanition, gisant pêle-mêle dans l'ombre verdâtre, amenés de tous les recoins de la côte, dans toute la légalité de contrats temporaires, perdus dans un cadre hostile, ils dépérissaient, perdaient leur capacité de travail, et avaient alors le droit de s'éloigner en rampant et de se reposer. Ces silhouettes moribondes étaient libres comme l'air et presque aussi ténues. Là, sur le flanc de colline, j'eus la prémonition que, sous le soleil aveuglant de cette contrée, je ferais la connaissance du démon avachi, hypocrite, au regard fuyant, d'une sottise rapace et sans pitié. Je n'avais plus aucune envie de m'attarder à l'ombre et repris à la hâte le chemin du poste.
Ça peut pas faire de mal. Lecture proposée par Guillaume Gallienne.
This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend, the end of our elaborate plans, the end of stands the end. No safety or surprise, the end. I'll never look into Can you picture what will be? So live madness and free, desperately in need of some stranger's hand in a desperate land.
C'est à plus de 1500 km de là que Marlowe découvrira le visage du démon Avachi en la personne de M. Kurtz. Il est temps à présent d'aborder cet autre personnage central du roman, celui qui nous abîmera au plus profond des ténèbres, celui qui a basculé dans la sauvagerie absolue, M. Kurtz. La première partie du roman de Conrad est hantée par le mystère qui auréole cet homme. Le temps s'étire avant que Marlowe ne puisse prendre possession de son embarcation. Alors, à l'image des colons errant sur place, il attend. Dans une atmosphère de rumeurs et de complots grandissantes, tout le monde évoque Kurtz de manière à la fois floue et toujours élogieuse, trop pour être sincère. « C'est un homme remarquable », lui dit-on. À force de sous-entendu, notre héros rassemble des informations sur ce mystérieux agent de la compagnie. Il est responsable du poste à l'autre extrémité du fleuve. Chasseur d'ivoire, il en collecte plus que tous les autres réunis. Il fait par ailleurs partie d'une mission d'exploration. Il est promis à un avenir grandiose, mais il serait malade. On comprend aussi que c'est un homme brillant, éclairé, prototype de l'esprit des Lumières. Il est même peintre à ses heures perdues. C'est ce que Marlowe découvre lors de sa rencontre avec le briquetier de la compagnie, jeune homme blanc aux allures d'aristocrate. Retrouvons-les tous deux un soir dans la case de ce dernier. Il frotta une allumette. Et je m'aperçus que les parois d'argile étaient couvertes de nattes indigènes. Une collection de lances, de sagaies, de boucliers, de poignards était accrochée en panoplie. Je remarquai alors une petite étude à l'huile sur un panneau représentant une femme, drapée, les yeux bandés et portant une torche allumée. Le fond était ténébreux, presque noir. Le mouvement de la femme était majestueux et la lueur de la torche sur le visage sinistre. Je demeurai en arrêt et il resta poliment debout à mes côtés. Il répondit que c'était M. Kurtz qui avait peint cela, dans ce même poste, plus d'un an auparavant, tandis qu'il attendait la possibilité de rejoindre son comptoir. « Dites-moi, je vous prie, » demandai-je. « Qui est-ce, Monsieur Kurtz ?»«
Le chef du poste de l'intérieur, » répondit-il sèchement en détournant les yeux.
« Grand merci, » dis-je en riant. « Et vous êtes le briquetier du poste central. Tout le monde sait cela. » Il resta un moment silencieux.
« C'est un prodige, » dit-il enfin.
« C'est un émissaire de la pitié, de la science, du progrès. Et le diable sait de quoi d'autre encore. Il nous faut, se mit-il à déclarer soudain, pour diriger la mission que l'Europe nous a, pour ainsi dire, confiée, une haute intelligence, une large compassion, des yeux toujours fixés sur le but à atteindre.
« Qui dit cela ?» demandai-je.
« Des tas de gens, » répliqua-t-il. « Certains vont même jusqu'à l'écrire. Et voilà comment il arrive ici, lui, cet être d'exception. « Aujourd'hui, il est à la tête du meilleur poste, » ajouta-t-il l'air pénétré. « L'an prochain, il sera directeur adjoint, encore 2 ans et... Mais je pense que vous savez ce qu'il sera dans 2 ans. »
Il souffla brusquement la bougie et nous sortîmes. Je continuai mon chemin jusqu'à la berge du fleuve. Je sentis une main se glisser sous mon bras.
« Mon cher monsieur, » dit l'autre qui m'avait rattrapé, « je ne voudrais pas être mal compris, surtout de vous, qui verrez Monsieur Kurtz bien avant que je ne puisse avoir ce plaisir. Je ne voudrais pas qu'il se fasse une idée fausse de mes dispositions. » Je le laissais poursuivre ce Méphistophélès de carton-pâte, et j'eus l'impression que si j'essayais, je pourrais passer mon index au travers, sans rien trouver à l'intérieur que peut-être un peu de fange inconsistante. C'est que, figurez-vous, il avait projeté de devenir, sous peu, l'adjoint de l'actuel directeur. Et je voyais bien que l'arrivée de ce Kurtz les avait mis l'un et l'autre dans tous leurs états. À ce stade de ses aventures, notre héros prend la tête de son embarcation. Sa mission est claire désormais. Direction, le fin fond de l'intérieur, pour ramener Kurtz, dont on est sans nouvelles. Retrouvons Marlowe, le capitaine, à son poste de commandement. À bord, à ses côtés, pour cette traversée qui va durer plusieurs mois, plusieurs colons et agents de la société belge, le chauffeur, l'homme de bar. Crocodiles et hippopotames se dorent la pilule au soleil sur les bancs de sable argenté qui parsèment les berges du fleuve, mais la navigation n'y est pas aisée. Le fleuve, dans son silence et sa force immobile, observe de sa profondeur celui qui s'y aventure. Le vapeur s'engouffre dans un passage étroit. Le chauffeur est à son poste, près de la chaudière. À la barre, le timonier, un noir athlétique appartenant à une certaine tribu de la côte. Capitaine Marlowe est à ses côtés dans la chambre de navigation située tout à l'avant du navire. Je vis soudain le chauffeur s'asseoir devant sa chaudière et rentrer la tête. J'étais stupéfait. Des baguettes, des petites baguettes volaient de toutes parts et de rue. Elles me passaient devant le nez en sifflant, tombaient en dessous de moi, venaient derrière moi frapper ma chambre de navigation. Pendant tout ce temps, le fleuve, le rivage, les bois étaient très tranquilles, parfaitement tranquilles. Des flèches, parbleu. On nous tirait dessus. Je rentrais vivement, fermais le volet de la chambre de navigation. Cet idiot d'homme de barre, les mains sur les rayons de la roue, levait bien haut les genoux, en frappant du pied et rongeant son frein comme un cheval que l'on retient. Je le vouais à tous les diables, et nous avancions en zigzag à 3 mètres de la berge. Il fallut me pencher carrément en dehors pour faire pivoter le volet massif de la chambre de navigation, et je vis parmi les feuilles un visage à hauteur du mien, qui, très farouche, me regardait fixement. Et alors tout d'un coup, comme si l'on m'avait ôté un voile de devant les yeux, je distinguais dans les profondeurs de l'obscurité confuse des poitrines, des bras et des jambes nus, des yeux menaçants. Les taillis fourmillaient de membres humains qui bougeaient et luisaient, couleur de bronze. Les branches s'agitèrent, se balancèrent, firent entendre un bruissement. Il en jaillit des flèches, puis le volet se ferma. « La barre droit devant !» dis-je au timonier. Il gardait la tête rigide, le visage tourné vers l'avant, mais il roulait des yeux, ne cessait d'élever et d'abaisser lentement les pieds avec un peu d'écume aux lèvres. « Tiens-toi tranquille !» dis-je furieux. Autant valait ordonner à un arbre de ne pas se balader au vent. Je sortis en trombe. En amont, j'aperçus une ride en V sur l'eau. Quoi, encore un chicot ? Une fusillade éclata sous mes pieds. Les pèlerins avaient ouvert le feu avec leur Winchester et envoyé tout simplement une giclée de plomb dans cette brousse comme avec une seringue. Un fichu nuage de fumée s'éleva et dériva lentement vers l'avant. Maintenant, je ne voyais plus rien. J'étais debout dans l'embrasure de la porte, écarquillant les yeux, et les flèches volaient en essaim. Elles étaient peut-être empoisonnées, mais paraissaient incapables de tuer un chat. Juste derrière moi, cet abruti à la barre restait planté devant la large ouverture à rouler des yeux, et je lui criais de revenir, tandis que je corrigeais la soudaine embardée de ce maudit vapeur.
Même si j'avais voulu virer, il n'y avait plus la place de le faire. Le chicot était quelque part devant, tout près, dans cette satanée fumée. Il n'y avait pas de temps à perdre. Aussi lançais-je le bateau droit sur la berge, là où je savais l'eau profonde. Nous forçâmes lentement notre passage à travers le taillis en surplomb, dans un tourbillon de branches cassées et de feuilles arrachées. Je rejetai vivement la tête en arrière pour éviter quelque chose de brillant qui traversa le kiosque en sifflant, entrant par une ouverture et ressortant par l'autre. En portant mon regard derrière ce timonier fou qui lançait des imprécations vers le rivage, je vis un objet de grande dimension apparaître en l'air. Et le bonhomme recula rapidement, me regarda par-dessous son épaule d'une manière extraordinaire, profonde et familière, et me tomba sur les pieds. Il me fixait droit dans les yeux, ses deux mains agrippées à ce qui paraissait être une grande canne. C'était la hampe d'une lance qui l'avait atteint au flanc, juste en dessous des côtes. Le fer avait pénétré tout entier et disparu, laissant une entraille effrayante. Mes chaussures étaient trempées, une flaque de sang s'étendait, immobile, brillant d'un rouge sombre au-dessous de la roue. Les yeux brillants et inquisiteurs du blessé m'enveloppaient. Ma parole. On avait l'impression qu'il n'allait pas tarder à poser une question dans un langage intelligible. Mais il mourut sans émettre un son, sans bouger un membre, sans contracter un muscle. Je dus faire un effort pour arracher mes yeux à son regard et m'occuper de la barre. D'une main, je tâtonnais au-dessous de ma tête pour trouver le cordon du sifflet à vapeur et déclencher en hâte une série de ululements stridents. Le vacarme des hurlements de colère et des cris de guerre fut arrêté net. Puis des profondeurs de la forêt monta une longue plainte, frémissante de peur lugubre et de profond désespoir, telle qu'on imagine celle qui suivrait l'envol du dernier espoir de la terre. Il y eut une grande agitation dans la broussaille, les flèches cessèrent de pleuvoir, quelques derniers coups de feu isolés claquèrent sèchement, puis le silence, dans lequel le battement languissant de la roue arrière me parvint distinctement aux oreilles. Nous apprendrons que c'est M. Kurtz lui-même qui orchestra l'attaque auprès des tribus locales dans le but de repousser l'embarcation. Mais pour l'heure, toujours par les yeux de Marlowe depuis son navire, approchons-nous tout doucement du poste occupé par Kurtz, le démon du fleuve, l'idole de la région. Alors que tout l'équipage est persuadé que Kurtz a été tué lors de cette attaque, Marlowe aperçoit au loin une clairière sur la berge, ainsi que les contours d'un bâtiment. Nous y sommes. Au cœur des ténèbres. Préparons-nous à une découverte macabre qui en dit long sur cet obscur occupant de l'intérieur qui va aider notre narrateur à mettre au jour sa personnalité. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» demandai-je au directeur qui se lamentait. Il battit des mains de surprise émerveillée. « Le poste !» s'écria-t-il. J'obliquai sur le champ tout en restant à mi-vitesse. Dans mes jumelles, je vis le flanc d'une colline piquetée de quelques arbres et entièrement dépourvue de taillis. Au sommet, un long bâtiment délabré était à moitié enfoui dans l'herbe haute. Il n'y avait ni clôture ni barrière d'aucune sorte. Mais il y en avait une apparemment, car près de la maison, une demi-douzaine de pieux élancés étaient encore alignés, grossièrement équarris, leur sommet orné de boules sculptées. Les traverses ou ce qui avait pu en tenir lieu dans les intervalles avaient disparu. Naturellement, la forêt encerclait le tout. Je passai prudemment, puis stoppai les machines et laissai le vapeur redescendre avec le courant. Je braquai mes jumelles sur la maison. Il n'y avait aucun signe de vie, mais il y avait le toit délabré, le long mur de torchis qui se montrait à peine au-dessus des hautes herbes, avec trois petites embrasures de fenêtres carrées, toutes de dimensions différentes. Tout cela placé, pour ainsi dire, à portée de main. Et puis j'eus un mouvement brusque, et l'un des pieux restants de la barrière évanoui bondit dans le champ de ma lunette. J'eus alors soudain une vision rapprochée, et son premier effet fut de me faire rejeter la tête en arrière comme devant un coup. Puis je promenai attentivement mes jumelles d'un poteau à l'autre, et je vis mon erreur. Ces billots ronds n'étaient pas ornementaux, mais symboliques. Ils étaient expressifs et déconcertants, frappants et inquiétants. Un aliment pour la réflexion, et aussi pour les vautours, s'ils s'en étaient trouvés scrutant du haut des airs. Un aliment en tout cas pour les fourmis assez industrieuses pour monter au sommet du poteau. Elles auraient été plus impressionnantes encore, ces têtes fichées sur les pieux, si leurs visages n'avaient été tournés vers la maison. Une seule, celle que j'avais vue la première, me faisait face. Je revins lentement à elle. Elle était là, noire, desséchée, hâve, les paupières closes. Une tête qui paraissait dormir au sommet de ce poteau. les lèvres sèches et ratatinées, laissant paraître l'étroite ligne blanche des dents, elle souriait sans cesse à quelques rêves interminables et facétieux dans son sommeil éternel. La présence de ses têtes à cet endroit montrait seulement que M. Kurtz manquait de retenue dans la satisfaction de ses divers appétits. Après avoir vu de loin pour la première fois un homme mourant, Marlowe recueille l'homme malade sur son bateau. L'être qu'il cherchait depuis des milliers de kilomètres n'est plus qu'un homme faible, à l'agonie. Mais Kurtz tente de s'échapper. Marlowe part à ses trousses. C'est l'heure du face-à-face tant redouté. Sitôt sur la berge, je vis une trace, une large trace à travers les herbes. Je me souviens de la jubilation avec laquelle je me dis « Il ne peut pas marcher, il se traîne à quatre pattes. » Je le tiens. L'herbe était trempée de rosée. J'avançais à grands pas, les poings serrés. Je crois que j'avais quelques vagues idées de lui tomber dessus à bras raccourcis. Je ne sais pas. J'eus quelques pensées idiotes. La vieille tricoteuse au chat s'imposait à ma mémoire, fort déplacée dans le rôle de la personne trônant à l'autre bout d'une telle affaire. Je voyais une rangée de pèlerins envoyer une giclée de plomb dans le vide, le Winchester toujours à la hanche. Je croyais que je ne regagnerais jamais le vapeur et m'imaginais vivant seul et sans armes dans la forêt jusqu'à un âge avancé. Des bêtises de ce genre, vous voyez. Je me rappelle avoir confondu les battements du tam-tam avec les pulsations de mon cœur et m'être réjoui de sa paisible régularité. Je suivis cependant la piste, puis m'arrêtai pour prêter l'oreille. La nuit était très claire, espace bleu foncé, étincelant de rosée et d'étoiles dans lequel des choses noires se dressaient, tout à fait immobiles. Je crus voir une espèce de mouvement devant moi. Je quittai bel et bien la piste et décrivais en courant un large demi-cercle. Je crois vraiment que je riais sous cap, de manière à me trouver devant ce frémissement, ce mouvement que j'avais vu, si j'avais bien vu quelque chose. Je tournais Kurtz comme font les gamins qui jouent à la guerre. J'arrivais sur lui, et s'il ne m'avait entendu venir, je lui serais littéralement tombé dessus. Mais il se leva à temps. Il se dressa, chancelant, long, pâle, indistinct, comme une vapeur exhalée par la terre, et oscilla légèrement, flou et silencieux devant moi, tandis que dans mon dos les feux jetaient leur lueur confuse entre les arbres et que le murmure de multiples voix émanait de la forêt. Je lui avais habilement coupé la route, mais quand je me trouvais effectivement face à face avec lui, il me sembla que je reprenais mes esprits et je vis le danger à sa juste mesure. Il n'était pas encore écarté, loin de là. À supposer qu'il se mette à crier, il avait beau tenir à peine debout, il lui restait une belle vigueur dans la voix. « Allez-vous-en, cachez-vous » dit-il de son timbre caverneux. C'était très impressionnant. Je jetai un coup d'œil derrière moi. Nous étions à moins de 30 mètres du feu le plus proche. Une silhouette noire se leva, s'avança à grands pas sur de longues jambes noires, en agitant de longs bras noirs devant la lueur. Elle avait des cornes sur la tête. Un sorcier, un griot assurément. « Savez-vous ce que vous êtes en train de faire » soufflai-je.
« Parfaitement !»
répondit-il en élevant la voix pour ce seul mot qui me parut à la fois lointain et fort, comme si l'on m'avait hélé avec un porte-voix. « S'il fait du tapage, nous sommes perdus. Nous sommes perdus, pensais-je à part moi. » Il était clair que ce n'était pas l'occasion de faire le coup de poing, sans même parler de l'aversion naturelle que j'éprouvais à l'idée de frapper cette ombre, cet être errant et tourmenté. « Vous serez perdu, » dis-je, « totalement perdu. » On a quelquefois un éclair d'inspiration de ce genre, vous savez. Je dis exactement ce qu'il fallait dire, bien qu'en vérité il n'eût pu être plus irrémédiablement perdu qu'il n'était en ce moment précis où étaient posées les fondations de l'intimité qui devait durer entre nous, qui devait durer jusqu'à la fin. Et même au-delà. « J'avais d'immenses projets, » murmura-t-il résolu. « Oui, » dis-je. « Mais si vous essayez de crier, je vous assomme avec... » Il n'y avait ni morceau de bois, ni pierre à proximité. « Je vous étrangle pour de bon, » rectifiai-je. « J'étais au seuil de grandes choses, » plaida-t-il d'une voix vibrante de désir avec un accent de désenchantement qui me glaça le sang. « Et maintenant, à cause de cette maudite crapule du directeur qui veut ma peau, « votre succès en Europe est acquis de toute façon, » affirmai-je posément. Vous comprenez bien que je ne tenais pas à l'étrangler, ce qui effectivement ne nous aurait pas avancé à grand-chose de quelque point de vue que l'on se place. Le duel n'a pas lieu, Marlowe prend pitié de cet être faible. Tyran devenu grotesque, Kurtz représente le degré ultime de l'horreur à laquelle conduit l'impérialisme. Un homme capable de griffonner d'une main fiévreuse sur un bout de papier la sentence immonde,
exterminer toutes ces brutes. De manière plus complexe encore, Conrad explore le point de rupture auquel Kurtz est parvenu. L'homme civilisé dans un contexte colonial ne peut que plonger dans la nuit de la sauvagerie.
A connu des populations ethnologiques, si je puis dire, un moment charnière.
Claude Lévi-Strauss.
Où subsistaient encore beaucoup les cultures traditionnelles et où, en même temps, déjà, elles étaient pénétrables et pénétrées par une civilisation mécanique qui n'était pas encore aussi agressive. Il y a une sorte, je dirais, d'âge d'or où on pouvait, à la rigueur, s'imaginer bien qu'un équilibre pourrait se trouver, que nous pourrions à la fois jouir des beautés et des enseignements que nous trouvons dans ces sociétés lointaines sans leur apporter la destruction qui a été, hélas, notre œuvre.
Retrouvons pour conclure Marlowe sur la terre ferme qui se débat avec la morne réalité d'une vie occidentale, mesquine et insatiable. Une année a passé, Marlowe est cassé, sans espoir ni désir. Je crois qu'à cette époque, je n'étais pas dans mon assiette, confie-t-il. J'allais par les rues d'un pas mal assuré en adressant un rictus amer à des personnes parfaitement respectables. Ce n'était pas forcément mes forces qui avaient besoin d'être restaurées, poursuit-il. C'était mon imagination qui avait besoin d'être apaisée. Il décide pour cela de se débarrasser du mince paquet de lettres et du portrait de sa jeune fiancée que Kurtz lui avait remis et de les remettre à sa propriétaire. Va-t-il ainsi parvenir à abandonner cet épisode de sa vie au passé ? Charles Marlowe, lui qui a traqué la vérité tout au long de son exploration, fait au cours de cette ultime escale le choix d'un mensonge, le choix de ne pas basculer, le choix de la vie et de la clarté. Le voici dans une rue de la ville sépulcrale. Le crépuscule tombe sur la capitale belge. Devant la grande porte massive, entre les hautes maisons d'une rue aussi silencieuse et digne qu'une allée de cimetière bien entretenue, je revis Kurt sur la civière qu'il avait portée sur le vapeur, ouvrant une bouche vorace, comme pour dévorer toute la terre avec toute sa population. À ce moment-là, il était devant moi, vivant, aussi vivant qu'il l'avait jamais été. Il me parut que cette vision entrait avec moi dans la maison, avec le battement du tam-tam, régulier et sourd comme un battement de cœur. Le cœur de ténèbres victorieuses. Je sonnais devant une porte d'acajou au premier étage, et tandis que j'attendais, je crus encore le voir me fixer de ce panneau lisse comme un miroir, me fixer de ce regard persistant, largement dilaté, immense, qui embrassait, condamnait, exécrait l'univers entier. Je crus entendre l'exclamation qu'il me chuchota dans son dernier souffle. L'horreur ! L'horreur ! Il me fallut attendre dans un salon imposant. La haute cheminée de marbre était d'une blancheur froide et monumentale. Une haute porte s'ouvrit, se ferma. Je me levai. Elle s'avança, tout en noir, la tête pâle, glissant vers moi dans la pénombre. Elle était en deuil. Elle prit mes deux mains dans les siennes et murmura « J'avais appris que vous alliez venir ». Je remarquai qu'elle n'était pas très jeune, je veux dire que ce n'était plus une adolescente. On eût dit que la pièce s'était assombrie, comme si toute la triste lumière de cette fin de journée couverte s'était réfugiée sur le haut de son visage. Elle portait sa tête affligée comme si elle était fière de cette affliction, comme pour dire « moi, moi seule sais le pleurer comme il le mérite ». Pour elle, c'était hier qu'il était mort. Je me demandais ce que je faisais là, avec au cœur un sentiment de panique. Comme si j'avais pénétré par inadvertance en un lieu de mystère absurde et cruel que nul mortel ne devait contempler. Elle me désigna un siège. Nous nous assîmes. Je posai doucement le paquet sur la petite table et elle le couvrit de sa main. « Vous l'avez bien connu ?» murmura-t-elle après un moment de silence funèbre. « Là-bas, l'intimité se développe très vite, » dis-je. « Je l'ai aussi bien connu qu'il est possible à un homme d'en connaître un autre. » « Et vous l'avez admiré ?» dit-elle. Il était impossible de le connaître sans l'admirer, n'est-ce pas ? C'était un homme remarquable, dis-je d'une voix mal assurée. Puis, devant la fixité suppliante de son regard qui semblait guetter d'autres paroles sur mes lèvres, je poursuivis. Il était impossible de ne pas l'aimer, acheva-t-elle ardemment, me réduisant à un mutisme épouvanté. Comme c'est vrai, quand on pense que personne ne l'a connu comme moi, j'avais toute sa noble confiance. C'est moi qui l'ai connu le mieux. C'est vous qui l'avez connu le mieux, répétai-je. Et peut-être était-ce vrai.
Mais avec chaque parole prononcée, la pièce devenait plus sombre. Et seul son front, lisse et blanc, restait éclairé par la lumière inextinguible de la foi et de l'amour. « Vous étiez son ami, » continua-t-elle. « Je sens que je peux vous parler et... Oh, j'ai besoin de parler. » J'écoutais. Les ténèbres s'épaississaient. La jeune fille parlait, soulageant sa peine dans la certitude que je partageais ses sentiments. Elle parlait comme boivent les assoiffés. Elle se leva, les cheveux blonds paraissaient rassembler tout ce qui restait de clarté en un reflet d'or. Je me levai à mon tour. « Il faut que quelque chose demeure, » continua-t-elle. « Ces paroles, au moins, ne sont pas mortes. »« Ces paroles demeureront, » dis-je. Elle tendit les bras comme en direction d'une silhouette qui s'éloignait, les allongeant, tout noir, les mains pâles, crispées, devant la clarté mourante et étroite de la fenêtre. Je le voyais alors fort distinctement. Je verrai ce fantôme éloquent aussi longtemps que je vivrai, et je la verrai, elle aussi, ombre tragique et familière. Elle dit soudain très bas, « Les morts comme il a vécu, et je n'étais pas avec lui. Il avait besoin de moi, de moi. » Je sentis comme un cercle de glace me serrer la poitrine. « Pardonnez-moi, je l'ai pleuré si longtemps en silence, en silence. Vous étiez à ses côtés jusqu'à la fin. Je pense à sa solitude. » « Jusqu'à l'extrême fin, » dis-je d'une voix mal assurée. J'ai entendu ses toutes dernières paroles. Je m'interrompis effrayé. « Répétez-les, » murmura-t-elle d'une voix brisée. « J'ai envie de... J'ai besoin de... quelque chose avec... avec quoi vivre. » J'étais sur le point de lui crier. « Vous ne les entendez donc pas ?» L'obscurité les répétait en un souffle persistant tout autour de nous, en un souffle qui paraissait s'enfler, menaçant comme le premier souffle d'un vent qui se lève. « L'horreur ! L'horreur !» Sa dernière parole... « Avec quoi vivre ?» insista-t-elle. « Ne comprenez-vous pas que je l'aimais ? Je l'aimais ?» Je me repris et parlais lentement. La dernière parole qu'il a prononcée, ce fut « Votre nom. » J'entendis un léger soupir, puis mon cœur cessa de battre, arrêté net par un terrible cri de jubilation, par le cri de l'impensable triomphe et de l'indicible souffrance. « Je le savais. J'en étais sûre. » Elle savait. Elle en était sûre. Il me sembla que la maison s'écroulerait avant que je ne puisse m'échapper, que les cieux me tomberaient sur la tête. Mais rien ne se produisit. Les cieux ne tombent pas pour une telle vétille. Je n'ai pas pu. Je n'ai pas pu le dire à la jeune fille. Ça aurait été trop de noirceur. Trop de complète noirceur.
Ça peut pas faire de mal.
Cette émission a été réalisée par Xavier Pestugia avec Jean-Michel Bernaud à la technique. Elle a été préparée par Estelle Gap, Perrine Malinge et Claire Tesser. Bonne soirée et à la semaine prochaine.